Père Pierre-Marie, bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Radio Maria.
Bonjour Bruno, bonjour. Bonjour aux auditeurs.
Voilà, je vais vous demander pour commencer, de vous présenter. Avant de présenter, j'irai le lieu où vous êtes, peut-être quand même en parlant de l'abbaye d'Ourscamp, et après nous parlerons plus particulièrement de votre communauté.
Alors, à titre personnel, donc je suis religieux, je suis dans la congrégation depuis 1987. Auparavant, j'ai eu une vie professionnelle j'ai eu une formation aussi dans des études supérieures auparavant, dans les écoles de commerce, etc. Et c'est progressivement que je me suis posé la question de la vie consacrée, et singulièrement après une retraite. J'avais un désir vraiment de me donner à Marie et de me donner aux jeunes, et je crois que ça a été, cette rencontre avec la communauté a été providentielle.
Merci. Pouvez-vous nous présenter un petit peu le lieu où vous êtes, l'abbaye d'Ourscamp, avec son histoire, pour vraiment vous positionner, j'irais, dans l'Oise? Vous êtes dans l'Oise?
Alors, nous sommes dans l'Oise, en effet. C'est un lieu mythique, je pense qu'on peut le dire, parce que c'est un lieu qui est habité par la prière depuis le 6e, 7e siècle, puisque Saint-Éloi, qui a été argentier du roi Dagobert, vous connaissez la chanson du roi Dagobert et du bon Saint-Éloi, etc. Saint-Éloi a été ensuite le premier évêque de Noyon, et ensuite a établi ici un oratoire au 7e siècle de mémoire. Et ensuite, donc c'est un lieu de prière. Alors, est-ce que ça a perduré ou pas, on ne sait pas trop, mais l'autre moment très important de l'abbaye, ça a été Saint-Bernard, puisque au XIIe siècle, Saint-Bernard a fondé l'abbaye d'Ourscamp, qui est une abbaye cistercienne, dont il reste aujourd'hui les vestiges du chœur abbatial, qui sont souvent cette image iconique que l'on retient comme ça de l'abbaye, un cœur qui est, tout est démonté, sauf le cœur, sauf les nervures du cœur, et qui sont un peu au milieu qui tiennent dans le vide d'une certaine manière, c'est assez impressionnant. Et perdure de cette époque, là, ce qui nous sert aujourd'hui d'église, et qui était auparavant l'infirmerie monastique. Évidemment, c'est un lieu qui a été très bousculé, alors par la Révolution française, très bousculé aussi par la révolution industrielle, puisque vous savez que à la fin de la dernière partie du 19e siècle, il y a une fabrique de velours assez importante qui s'est établie sur l'abbaye, et donc qui a retravaillé les bâtiments pour pouvoir coller avec les métiers à tisser. Et puis aussi ce moment aussi terrible de la guerre de 14. La guerre de 14, l'abbaye d'Ourscamp a été, comme d'autres monuments, très touchée, et singulièrement une aile de l'abbaye que l'on est en train de reconstruire, qui s'appelle l'aile de Lorraine, construite par le cardinal de Lorraine, et qui a été détruite par un obus français, un obus incendiaire, parce que c'était le front allemand, c'était la zone allemande, là où nous sommes. Voilà, il y a eu d'autres choses qui ont été détruites durant la guerre, donc il y a eu des dommages de guerre, etc. Et nous sommes arrivés, nous avons été fondés en 1930, mais nous sommes arrivés ici, dans ce lieu, en 1941.
D'accord. Et maintenant donc, on va poursuivre cette découverte. Après avoir découvert le lieu, on va faire connaissance avec votre communauté et son fondateur.
Alors, le fondateur de la communauté, c'est un homme tout à fait extraordinaire et étonnant, qui est le père Lamy, Jean-Édouard Lamy. C'est un homme qui vient de la Haute-Saône. C'est un homme qui est né en 1853, donc qui est plus un homme du 19e que du 20e siècle. Il est mort en 1931. C'est un homme qui vient de la campagne, comme beaucoup, c'était le cas en Haute-Saône, une France très rurale. Il a fait ses études chez les Oblats de Saint-François de Sales au début pour être prêtre. Ensuite, il est passé au diocèse de Paris. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est un homme qui a eu alors, ça reste des révélations privées, mais des intuitions, d'une rencontre avec la Vierge Marie très forte. Vous avez ça dans son livre, Laté, Apôtre et mystique, ou par le comte Bivert, qui était une personne qui a cru en ses rencontres avec Marie, en ses visions. Et en 1909, de façon particulière, le père Lamy a eu une rencontre avec Marie dans laquelle Marie lui a demandé deux choses. Premièrement, de fonder la congrégation des serviteurs de Jésus de Marie. Elle a même montré l'habit que nous portons encore aujourd'hui. Et puis d'établir un pèlerinage dans le diocèse de Langres à Notre-Dame-des-Bois. Et les deux choses encore aujourd'hui existent. Ce qui me fait dire que ce que Père Lamy a reçu comme grâce du ciel, ce n'est pas juste le fruit d'un homme qui a une imagination débordante. Non, c'est certainement quelque chose qui a eu lieu. D'autant plus que la sainteté de sa vie, d'autant plus que des récits qu'il fait, des rencontres avec la Vierge Marie, des rencontres avec la Vierge Marie, avec ses anges gardiens. Il a eu aussi, c'est assez étonnant, c'est vraiment un mystique, c'est les anges gardiens avec le démon. Il a rencontre aussi avec le Seigneur Jésus. Donc vraiment, il a eu des grâces mystiques, ce qu'on appelle des grâces mystiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un mystique, si ce n'est quelqu'un qui voit le ciel comme je vous vois, il voit son ange gardien, voit la Vierge Marie, voit Jésus, comme vous pouvez voir votre voisin. Alors, Père Lamy, nous on n'a pas commencé encore de procès comment dire, en béatification, de reconnaissance de héroïcité des vertus pour qu'il soit canonisé. On n'a pas commencé ça. Ça pourrait être fait. Mais c'est vrai que l'Église est toujours très prudente par rapport aux personnes qui ont reçu des grâces du ciel en termes de, j'allais dire, en termes de rencontres, de vie mystique, hein, voilà, de rencontres avec le ciel, etc. L'Église est très prudente. Mais bon, toujours est-il, Père Lamy, c'est un homme de la campagne, c'est un homme du terrain, c'est un homme un prêtre très donné. Lorsqu'il était au diocèse de Paris, le cardinal Ahmed, qui était le cardinal archevêque de Paris de l'époque, a dit: j'ai un autre curé d'Ars dans mon diocèse, puisque lui, il exerçait à la Courneuve qui faisait partie alors du diocèse de Paris. Hein, c'était pas encore la Sainte-Saint-Denis, mais qui était déjà un lieu très populaire. Très rouge aussi, parce que c'était ce qu'on appelait la banlieue rouge, hein, d'alors. Et il s'est donné beaucoup pendant la guerre de 14, et puis après des patronages, etc. Ce qui fait qu'il a légué à la communauté plusieurs choses au niveau spirituel. Premièrement, l'amour de la Vierge Marie. Ça, je crois que c'est vraiment important et qui est au cœur même de notre congrégation. Ensuite, la dévotion eucharistique. Donc, Père Lamy, déjà à l'époque, a dit voilà, l'importance de l'adoration du Saint-Sacrement, du sérieux dans la célébration de la liturgie. Et puis aussi, un autre point parce que c'était en plein modernisme, si vous voulez, à l'époque du Père Lamy, il a vraiment demandé l'obéissance au Saint-Père. Et c'est l'obéissance au Saint-Père, l'obéissance à Marie et la vie liturgique et singulièrement la vie eucharistique, ce qu'on appelle traditionnellement les trois blancheurs, eh bien, c'est quelque chose que Père Lamy nous a transmis. Alors, nous a transmis de façon modeste, parce que la congrégation a été fondée. Il a eu cette intuition de la congrégation en 1909, mais la congrégation, je vous ai dit, c'était 1930. Pourquoi il a tant tardé pour créer la congrégation? Parce que c'est un homme de la campagne, c'est un homme tout simple, c'est un homme du peuple. Je veux dire, il dit: moi, je ne sais pas faire. Comment est-ce qu'on fait? C'était pas un homme, c'est un prêtre diocésain, donc je ne sais pas comment on fait une congrégation. Je ne sais pas. Jusqu'à temps qu'il ait rencontré le comte Bivert, qui était un homme qui, lui, érudit, comte dans le sens, c'est une noblesse pontificale. Il était camerlingue de sa sainteté, donc il était introduit dans les milieux ecclésiastiques. Il avait en plus de la fortune personnelle, ce qui fait que le comte Paul Bivert a cru à ce qu'il vécut Père Lamy. Et Père Lamy, dans cette rencontre, a dit: voilà la personne qui va m'aider à mettre en place la congrégation. Mais de 1909 à 1930, il a gardé ça dans son cœur en attendant que le Seigneur veuille bien envoyer une personne qui puisse réaliser cette demande de la Sainte Vierge de fonder la congrégation.
Le 23 juin, ça va être pour vous peut-être un jour de fête, puisque c'est le 170e anniversaire de sa naissance cette année.
Exactement. Exactement, 23 juin, donc c'est un jour de fête. Nous c'est 23 juin 1953, donc on est en 2023. C'est un jour de fête, c'est quelque chose, voilà, pour nous, c'est un homme qui est vraiment inspirant, Père Lamy. C'est un homme auquel on a recours, on fait une neuvaine perpétuelle, on l'invoque régulièrement, un homme d'une grande simplicité. On lui confie aussi les vocations pour la congrégation, l'avenir de la congrégation, qu'il a voulu et que la Sainte Vierge a voulu, nous le croyons en tout cas. Bon, et voilà, c'est quelqu'un qui est présent dans notre vie, et c'est vrai que nous aimons le fêter régulièrement.
Mais maintenant, on va continuer en nous faire connaître votre communauté,
Oui,
les
alors,
serviteurs Jésus et
le
Marie.
serviteur Jésus et de Marie, donc je vous l'ai dit, fondé en 1930. Mais nous sommes ici arrivés en 41, donc à l'abbaye d'Ourscant. L'abbaye d'Ourscant qui a été achetée par le fameux comte Biver, ce laïc qui a cru en ce que vivait Père Lamy. Aujourd'hui, la communauté, donc, en termes de vie spirituelle, je vous l'ai expliqué, il y a une dimension mariale et eucharistique. Donc, notre spiritualité est vraiment enracinée en Marie et enracinée dans l'amour de l'Eucharistie, de l'adoration, dans le soin, l'attention particulière donnée aux célébrations. La liturgie pour nous a beaucoup d'importance, et Père Lamy dit, ils passeront de grands temps à célébrer la louange de Dieu, c'est-à-dire les offices. Hein, nous sommes des frères qui, ce qu'on appelle des conventuels. Alors peut-être tout le monde ne connaît pas ce mot-là, mais il y a plusieurs styles de vie religieuse. Nous sommes des vies religieuses masculines, il n'y a pas de branche féminine, une vie religieuse masculine, avec donc les conventuels, c'est-à-dire ils prennent leur repas ensemble et ils font les offices ensemble et un certain nombre d'activités ensemble. Et par ailleurs, avec une dimension missionnaire. Et ce qui, moi, m'a touché dans mon parcours personnel, c'est ça. C'est et cette dimension à l'intérieur, fraternelle, de vie de prière, de vie de silence. Père Lamy insiste beaucoup sur la vie de silence. Et en même temps, la dimension missionnaire, que ce soit par l'accueil à l'abbaye d'Ourscant, c'est la maison mère avec beaucoup de retraites spirituelles, de groupes qui sont accueillis. Mais par exemple, nous avons en Alsace, à Mulhouse, un patronage qui est en train de se monter, qui a été confié par l'archevêque Luc Ravel, l'archevêque de Strasbourg, pardon, à Strasbourg. Et puis ensuite, nous sommes présents aussi en Argentine, où nous sommes dans un lieu d'accueil spirituel. Donc, nous sommes grosso modo une trentaine de frères qui, de tout style. Ce que je trouve vraiment aussi très touchant dans la communauté, c'est que il n'y a pas de moule. Vous voyez, il n'y a pas de, au niveau social, au niveau âge, au niveau compétence, au niveau capacité. C'est extrêmement différent. Il y a des intellectuels, il y a des manuels, il y a des personnes qui sont peut-être plus contemplatives, donc plus missionnaires dans l'apostolat, etc. Singulièrement, et Père Lamy nous a demandé de l'apostolat auprès des jeunes. Et donc, nous sommes attentifs, que ce soit par les patronages ou par l'œuvre des retraites ou par l'implication à l'extérieur. Il y a des frères qui peuvent être aumôniers de scouts, par exemple, aumôniers. Moi, j'étais aumônier d'étudiants. J'accompagne des jeunes professionnels. Voilà, de cette façon-là. Et les frères qui sont en Argentine sont aussi très attentifs à l'évangélisation de la jeunesse et singulièrement de la jeunesse qui est défavorisée dans les favelas, etc. Donc, c'est ce côté que nous avons reçu de notre fondateur, d'une attention particulière en fonction des charismes de chacun. C'est sûr, si vous avez un père de 75 ans, voilà, il ne va pas aller gambader dans un camp scout ou quoi qu'est-ce, si vous voulez. Donc, voilà, en fonction de. Il peut être confessera, se rendra disponible, mais en fonction des charismes, en fonction des. Et je trouve ça très touchant de ceux qui connaissent la communauté. Il y a de la place pour chacun, chaque style de personne. Et on est vraiment des individualités vraiment, vraiment différentes, vraiment. Bien, bien affermi aussi avec nos tempéraments et nos grâces et aussi nos combats, que c'est comme tout un chacun. Mais je trouve que c'est vraiment une belle communauté de ce point de vue-là, parce que c'est une communauté qui permet à chacun de porter du fruit et de rayonner en fonction de sa grâce. Il y a des frères qui sont très attachés, par exemple, à l'évangélisation de rue. Il y a des frères qui sont plus. Il y a un père qui est disponible pour la paroisse locale, donc qui a été. Voilà, il y a un père qui est à la retraite, il aussi se rend disponible pour les paroisses, etc., pour les célébrations. Mais d'autres qui sont plus dans les patronages, d'autres qui sont plus dans l'œuvre des retraites, d'autres qui sont plus auprès de jeunes étudiants, de jeunes, en fonction de l'âge aussi, en fonction du charisme un peu de chacun. Je trouve ça très beau de voir comment le fait qu'il n'y ait pas de moule imposé dans lequel rentrer, vous avez, eh bien, ça laisse une grande liberté et une ouverture à la fécondité spirituelle de chacun.
Pour compléter ce que vous venez de dire, il y a deux informations importantes que j'ai pu voir. Vous êtes devenu en juillet 48 un institut de droit diocésain. Et également, vous avez la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus.
Oui. C'est des choses qui sont importantes. C'est au début, vous le savez, une communauté dans le diocèse de Toulon, parce que je pense Radio Maria aussi dans le diocèse de Toulon. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes communautés, etc. On regarde un peu ce que. Et à un moment donné, il y a un évêque qui prend en charge la communauté. Et nous, c'était en 41, on est arrivé dans le diocèse de Beauvais. L'évêque a voulu voir qui on était, etc. Et en 48, on a été reconnu comme congrégation officiellement par le diocèse de Beauvais, hein, ce qui fait que nous sommes une congrégation de droit diocésain. Pour faire un petit peu de différence, peut-être les auditeurs c'est un peu technique, mais les très grandes congrégations comme les dominicains, les franciscains, les jésuites qui sont de droit pontifical, c'est-à-dire qui dépendent de Rome, qui sont installés dans plusieurs pays, et voire plusieurs maisons dans plusieurs pays, nous sommes plus modestes, une trentaine de frères, donc nous dépendons d'un seul évêque, qui est l'évêque de Beauvais. La dévotion au cœur de, alors au Sacré-Cœur et au cœur immaculé de Marie. Je pense que Père Lamy nous a donné comme fête patronale le cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent peut-être cette dévotion particulière, cette fête particulière du cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, c'est à voir avec Notre-Dame des Victoires, avec l'abbé Desgenettes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Bruno, ou pas. Donc, c'est Notre-Dame des Victoires à Paris, où l'abbé Desgenettes avait confié qu'il voyait que sa paroisse dépérissait à vue d'œil, etc. Il avait confié au cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, sa paroisse. Et tout d'un coup, la paroisse s'est remplie de fidèles. Il y a eu des grâces qui ont été données, etc., etc. Et Père Lamy a été très sensible à ce cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, qui, évidemment, est tout à fait en lien avec le Sacré-Cœur. Évidemment, c'est la grâce des deux cœurs. Ça, c'est, vous le savez très bien. Et donc, c'est notre fête patronale. Notre fête patronale, c'est le 16 janvier, qui est le cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. Et nous invitons les uns et les autres, à travers les différents exercices spirituels, à se confier au cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, à Marie, qui est vraiment celle qui est mère de miséricorde.
Avant de vous demander comment rythmer votre journée avec les différents offices, vous avez deux maîtres spirituels, Saint François de Sales et Saint Bernard.
Exactement. Saint François de Sales et Saint Bernard, c'est Père Lamy a été oblat de Saint François de Sales, je vous l'ai dit au tout départ. Pourquoi était oblat de Saint François de Sales? Parce qu'au 19e, il y avait tellement de vocations qu'il fallait payer pour pouvoir rentrer au séminaire. Lui-même était d'une famille très modeste. Les seuls qui acceptaient des vocations sans un apport financier, c'était les oblats de Saint-François de Sales, à Troyes, dans la ville de Troyes, dans l'Aube. Ces oblats de Saint-François de Sales sont une congrégation internationale aujourd'hui. Il y a aussi des femmes, donc des oblats de Saint-François de Sales qui sont installées encore à Troyes. Donc, il a reçu dans sa formation comme religieux toute la spiritualité de François de Sales, c'est à la fois cet apôtre de la douceur, celui qui est très attentif aux âmes de chacun. Il dira plus tard, veillez à ces religieux, veillez à ne pas envoyer les âmes à la boucherie. Ça veut dire, veillez à ne pas maltraiter les âmes, ne pas maltraiter les personnes sur le plan spirituel. Soyez doux, soyez à l'écoute du Saint-Esprit dans le cœur de chacun. Et c'est vraiment la spiritualité salésienne. Et puis, il y a aussi la Saint-Bernard, et non seulement parce que nous sommes un lieu où Saint-Bernard a fondé, mais Saint-Bernard, c'était quelque chose qui l'a vraiment touché pour la dimension plus monastique, j'allais dire, de notre vie. On a un équilibre entre vie contemplative et vie missionnaire, vie apostolique. Et donc, Saint Bernard, c'est celui qui nous aide à rentrer dans le silence, celui qui nous forme à la vie communautaire, celui qui aussi a un grand amour de la Vierge Marie. Inutile de le dire, hein, vous connaissez le chant « Regarde l'étoile, regarde Marie hein, », ce sont les paroles de Saint Bernard. Voilà, donc, et Saint Bernard qui nous appelle justement, nous apprend la vie religieuse, la vie monastique, cette dimension plus contemplative de notre vie. Aujourd'hui où nous fêtons Saint Joseph, alors au niveau liturgique, le 19 mars c'était hier, mais liturgiquement c'est aujourd'hui, Saint Joseph et Saint Jean sont les deux personnes qui sont, que nous identifions comme les premiers serviteurs de Jésus de Marie, Saint Joseph pour la dimension contemplative et Saint Jean pour la dimension missionnaire apostolique.
Donc pouvez-vous un petit peu nous détailler les nombres d'offices que vous êtes dans la journée ?
Alors les offices, donc nous sommes une congrégation missionnaire, donc du coup nous n'avons pas par exemple des offices de nuit, nous avons un office le matin à 7h du matin, suivi de l'oraison silencieuse, la prière silencieuse, le petit déjeuner en silence. Le matin est plutôt dédié à l'adoration, à la lectio divina, à la contemplation, à la préparation de la prédication pour ceux qui ont en charge de prêcher, que ce soit ici ou ailleurs. Le repas de midi est ensemble, de toute façon tous les repas sont ensemble, avec une petite lecture qui introduit le repas, et le repas du soir est en silence aussi, en communauté. La messe est en soirée, donc avant le repas de midi, il y a ce qu'on appelle l'office du milieu du jour, et puis donc qui est en français, tiré de ce qu'on appelle le PTP, prière du temps présent, c'est la traduction officielle de l'Église, en tout cas pour les francophones. Et puis ensuite, à 18h15, messe et vêpres, suivi par les vêpres dans la soirée, et le dîner est en silence. Voilà, donc un peu notre vie, elle est rythmée, aussi en fonction, elle rend possible dans l'entre-deux un ministère, si vous voulez, elle rend possible de pouvoir, quand il y a un frère qui, s'il est aumônier de ceci, s'il est en paroisse, il faut qu'il... On ne pourrait pas, par exemple, comme la vie monastique, se lever à 4h du matin et à la fois parfois sans avoir des réunions jusqu'à 22h, ce serait pas possible, parce qu'évidemment on se rend disponible quand les fidèles sont disponibles, et c'est souvent en soirée et les week-ends. Donc ce style de vie, je trouve, avec ces offices qui sont communautaires, donc le matin à midi et le soir, nous rendent possible, permettent un certain équilibre que je trouve vraiment heureux, cette dimension vraiment plus fraternelle, plus contemplative, silencieuse, de vie de prière, et qui rend possible aussi cette dimension missionnaire et d'annonce de l'Évangile, singulièrement aux jeunes.
Père, je vais vous demander une chose un peu plus personnelle. Pouvez-vous nous parler de votre appel ?
Alors, de mon appel, alors que j'ai aujourd'hui 63 ans, je suis rentré à la vie religieuse en 1987. Je vous laisse faire le calcul. Je suis de famille catholique, traditionnelle, de paroisse, j'allais dire. Hein. J'ai vécu donc dans plusieurs villes, etc. Et c'est quand... mais j'allais dire, je n'ai pas... J'ai tout mon catéchisme et aussi... post-conciliaire, c'est-à-dire que toutes ces dans les années 70, etc., où beaucoup, c'était beaucoup à coups de crayon de couleur qu'on faisait le catéchisme, mais bon, j'ai pas de traces en tout cas de cette période-là, où c'était une période très, fin des années 60, début 70, etc., très, très mouvementée au niveau de ma jeunesse, voilà, au niveau de l'Église. Bon, j'ai pas beaucoup reçu au niveau, mais ma famille est pratiquante, paroissienne, voilà, de base, j'allais dire, ouais, pas forcément plus impliqué que ça. Et puis, j'ai fait donc des études supérieures, j'ai fait une grande école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé dans j'ai très bien gagné ma vie dans ce qu'on appelle les cabinets américains. Alors, je ne sais pas si les auditeurs connaissent ce qu'on appelle les cabinets d'audit, c'est-à-dire ceux qui valident les comptes des entreprises, donc c'est des grandes structures très reconnues, etc. Et avec vraiment une vie professionnelle qui s'annonçait tout à fait porteuse, et de commencer ma validation pour être expert comptable, vous voyez. Donc et puis j'ai participé à une retraite. Et le fait de participer à une retraite, chose que je n'avais pas faite depuis la confirmation. Mais donc, moi, je vous dis, je vous parle, j'avais 26 ans et ma confirmation, c'était quand j'en avais 14, 15. Et là, c'était une révélation. Ça a été vraiment une révélation, une prise de, plus exactement, une prise de conscience. Qu'est-ce que c'est que la vie avec le Seigneur? Il y avait certainement une, j'allais dire, une pierre d'attente. Dans mon cœur, d'un absolu qui n'était pas comblé. Et cette retraite a réveillé en moi quelque chose. Et ensuite, j'habitais à Lyon à l'époque. Je suis retourné donc à Lyon après cette retraite, etc. Et j'étais entouré aussi d'amis très impliqués dans la foi, chose que je ne connaissais pas, qui m'ont aidé. Ils m'ont dit, voilà, le fait de se confesser, je ne m'étais pas confessé depuis ma première communion, je ne m'étais pas, voilà, je ne participais pas à des groupes d'église, ne faisais pas de retraite. Voilà, j'étais moi, j'avais la pratique dominicale, mais c'était. Et du coup, cette découverte de ce qu'est cet éblouissement face à la personne de Jésus et à la personne de Marie, évidemment, m'ont mis en route. J'ai commencé, évidemment, à me confesser régulièrement, à prendre un accompagnateur spirituel, etc. Et puis, un des frères de la communauté est passé par Lyon, a laissé la règle de vie. Vous savez que chaque congrégation a une règle de vie, c'est-à-dire un peu leur style de vie, sur quoi ils s'engagent. Et en lisant ça, sans y être allé, j'ai eu comme une conviction, comme une motion du Saint-Esprit, je veux dire une sorte d'effusion du Saint-Esprit, que j'étais là. Et je suis, alors mon père spirituel me dit, écoutez, allez faire quand même un tour, vous voyez, vous ne pouvez pas prendre une décision comme ça. Bon, parce que bon, alors j'y suis allé, bon, c'était une communauté, nous sommes une trentaine de membres, mais à l'époque, on n'était même pas 15 membres, on n'avait qu'une seule maison, donc c'était très modeste. Mais je me dis, voilà, des religieux qui tiennent la route, des religieux qui prient Marie, des religieux qui sont obéissants au Saint-Père, qui aiment l'Eucharistie, qui font des temps d'adoration, qui sont sérieux dans la célébration de la messe, voilà, bon, voilà, et qui ont en même temps une vie de mission auprès des jeunes, ça me convient très bien. Et je suis rentré donc en 87, et puis ensuite, voilà, j'ai fait mon parcours de vie religieuse.
Pour les quelques instants qu'il nous reste, avant de vous poser la dernière question, j'ai bien noté donc que vous aviez une activité, vous aviez une boutique où il y a des produits alimentaires.
Oui.
Également, vous avez un accueil hôtellerie et
Oui.
vous pratiquez donc des différentes retraites pour
Oui.
ceux à qui ça convient. Et j'avais une question à vous poser. Donc, si un jeune, ça peut être après avoir écouté cette émission, après avoir discerné, s'il souhaite avoir plus d'informations, mieux vous connaître, comment doit-il faire?
Alors, le mieux, c'est qu'ils prennent contact avec le père maître des novices. Et qu'il aille sur notre site serviteuropluriel.org, serviteuropluriel.org. Nous avons chaque année une retraite de discernement vocationnel que nous proposons à des jeunes hommes à des hommes qui se posent la question de la vie consacrée et les informer aussi de notre propre style de vie, parce qu'il y a plusieurs styles de vie consacrés. Donc, évidemment, c'est quelqu'un qui est plutôt attiré par Marie, par l'Eucharistie, voilà, comme je l'ai évoqué, par la mission aussi. Et ensuite, donc, la personne vient faire un certain nombre de séjours chez nous, fait cette retraite. On l'invite aussi à faire une retraite mariale que l'on fait autour du 15 août. Voilà, un certain nombre de rencontres. Et après discernement, la personne prend un père spirituel à l'extérieur de la communauté pour être aussi avoir cette distance par rapport à la communauté, de façon à ce qu'il y ait un vrai discernement en liberté. Et si tel est l'appel, eh bien voilà, elle dit, moi je souhaite rentrer dans la communauté. On lui propose de venir d'abord 15 jours, pendant les vacances par exemple, pour si une personne qui est au travail ou qui est en études, on ne veut pas lui faire interrompre son travail ou ses études, d'abord les vacances et ensuite progressivement, ben voilà, écoute, en fonction de ce que nous voyons et aussi la personne du jeune en particulier, de ce qu'il voit. On décide d'avancer ou pas, et si on avance, ben du coup, il y a la première entrée qui est au postulat, et puis c'est assez classique, c'est postulat, noviciat, les premiers vœux, et les vœux définitifs au bout de 6-7 ans de premiers vœux, ce qui fait à peu près 8-9 ans de cheminement dans la communauté.
Chers auditeurs, la semaine prochaine, nous évoquerons également le Père Lamy, puisque nous serons avec Madame Fricoteau, qui est la veuve de Maître Fricoteau, qui a
Oui.
reçu une intuition sur la tombe du Père Lamy, qui est à la Courneuve,
Tout à
et nous
fait.
parlerons de Notre-Dame de France la semaine prochaine.
Tout à fait.
Ben, Père Pierre-Marie, il me reste, au nom de Radio Maria, vous souhaiter et vous remercier et vous souhaiter une très belle journée.
Merci beaucoup Bruno. Très bonne journée à vous et à tous les auditeurs en union de prière.
On en prière. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, c'était notre émission Sanctuaire et Communauté. Vous étiez avec le Père Pierre-Marie Castegnos de la communauté des serviteurs de Jésus et Marie à Ourscamp. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.